RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye de TV5 Monde, Fatimata Wansanya de France 24 et puis Pacom Pabanji, journaliste indépendant centrafricain. Et l'on se penche cette semaine sur deux sujets, la Centrafrique avec cette visite du nouveau secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres, visite dans un pays entre chaos sécuritaire et humanitaire. Et puis le Kenya qui a vécu hier jeudi 26 octobre, une nouvelle élection présidentielle tendue et surtout inachevée. D'abord, la première visite en Centrafrique donc du nouveau secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres, qui est passé, vous le savez, par le HCR. Il a donc visité un pays déchiré par un conflit armé depuis 2013, malgré la présence d'une force de maintien de la paix de l'ONU depuis quelques 3 ans. Le résumé du sujet d'Antoine Delpierre de TV5 Monde.
Arpenter Bangui en compagnie d'une patrouille de la MINUSCA a quelque chose d'étrange. Comme si dans la capitale, seule ville du pays où la sécurité est à peu près assurée, les casques bleus semblaient vouloir se convaincre eux-mêmes.
Depuis notre déploiement, nous avons constaté que la population se sent effectivement rassurée parce que lorsqu'il y a des besoins, nous intervenons rapidement. Et également le fait que nous soyons impartials et neutres dans toutes les situations, la population se sent également rassurée.
Mais une fois sorti de Bangui, c'est un tout autre discours que devrait entendre le secrétaire général de l'ONU. Car depuis cet été, le niveau des violences rappelle les pires heures de la crise centrafricaine entre 2013 et 2014, lorsque la Seleka s'emparait du pouvoir par la force, provoquant la création des milices d'autodéfense anti-Balaka. Le pays s'enfonçait alors dans un cycle de représailles de plus en plus meurtrières, jusqu'au déclenchement de l'opération Sangaris. Mais depuis le départ des soldats français il y a un an, les groupes armés contrôlent 80% du territoire, réduisant à néant toute tentative de sauvetage humanitaire. À l'heure actuelle, les Nations Unies dénombrent plus d'1 million de réfugiés ou de déplacés. Et selon la Banque mondiale, 3/4 des Centrafricains sont en situation d'extrême pauvreté. Quant aux ONG, elles-mêmes prises pour cible, elles se désengagent par manque de sécurité. Le pays qui regorge de matières premières comme l'uranium ou le diamant ne peut même pas compter sur son économie, exsangue. Au classement du programme des Nations Unies pour le développement, la Centrafrique est 188e à la dernière place.
Voilà, on a presque envie de dire, Ousmane Diaye, que tout est dit dans ce sujet. Le nouveau patron de l'ONU est venu en Centrafrique constater à la fois donc ce chaos sécuritaire et humanitaire qui règne dans ce pays, oublié de tous. Et d'une certaine manière, Antonio Guterres est venu aussi constater l'échec de la communauté internationale, l'impuissance de l'ONU à co-gérer une Centrafrique au bord du gouffre.
Je me suis demandé, est-ce qu'il n'est pas venu pour la forme? Parce que finalement, l'ONU, force de maintien de la paix, quelle paix? Parce qu'il n'y a pas de paix en Centrafrique. S'il y a quelque chose qui n'existe pas en Centrafrique, c'est la paix. Quand je me questionne que faut-il retenir de cette visite annoncée en grande pompe, quasiment rien. Moi, j'ai retenu un secrétaire général de l'ONU quand même qui demande 900 casques bleus, alors qu'il y en a 10 000 qui n'arrivent pas même à Bangui à sécuriser la capitale. 80% du pays hors de contrôle. Donc oui, je pense que c'était une visite, pour la forme.
Rappelons tout de même que les casques bleus ont payé un lourd tribut dans cette insécurité ambiante qui touche la Centrafrique depuis 2013, Fatimata Wansanya. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui d'un Antonio Guterres alors que les États-Unis ont l'intention de réduire leur contribution à l'ONU et surtout de réduire drastiquement le budget maintien de la paix dont dépendent les missions de maintien de la paix qui sont en Afrique, que ce soit en RDC ou en RCA, pour ne citer que ces deux pays d'Afrique centrale.
Alors, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, évidemment, dans ces cas-là. Sauf à imaginer déshabiller Paul pour habiller Jacques, déshabiller d'autres systèmes de maintien de la paix dans d'autres endroits. On ne voit pas très bien comment on peut avoir plus de ressources pour gérer ce conflit-là. Mais encore une fois, là, il n'est pas question d'argent en réalité. Parce que Ousmane l'a bien rappelé, il y en a déjà 10 000 de casques bleus sur place, qui n'arrivent pas à sécuriser même la capitale Bangui. Il en demande 900 de plus, donc une goutte d'eau finalement dans ce qu'il y a. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la marge de manœuvre réelle de ces casques bleus sur le terrain. Et c'est ça le problème. C'est intéressant dans le sujet, il disait qu'ils étaient impartiaux et que justement leur neutralité neutre était prisée de tous. Mais d'aucuns notent que dans certains endroits, l'origine ou la provenance même de ces casques bleus, quand ils sont pakistanais, donc d'origine musulmane, parce que là on parle quand même d'un conflit larvé d'origine religieuse, il y a des problèmes entre les musulmans
en tout cas,
et les catholiques.
Qui a pris une tournure religieuse.
Exactement, même si ce n'est pas le seul aspect du conflit et qu'il ne faut pas le réduire à ça. Ça c'est sûr. Néanmoins, ce problème est un problème parce que sur place, du coup, il y a des endroits où on laisse faire, entre guillemets, les anti-balaka, les musulmans, etc. Parce que certains...
En fonction de la sensibilité...
En fonction de la sensibilité religieuse des casques bleus. Donc ça, c'est quelque chose qui est pointé. Et donc, véritablement, leur mission doit être redéfinie, c'est le moins qu'on puisse dire, à défaut d'être augmentée, de toute façon.
Alors, encore une fois, je joue pas l'avocat du diable, des casques bleus ont été tués, notamment marocains, il y a pas si longtemps. Mais il est vrai que cette mission de casques bleus en RC ça pose problème. Il y a eu les scandales sexuels de mineurs qui ont été rétribués par de la nourriture contre effectivement des abus sexuels de la part de soldats. Ça a été révélé par des représentants de l'ONU. Voilà, 900 casques bleus de plus et on sait très bien que effectivement les groupes armés qui contrôlent 60% de la RCA, votre pays, PACOM, n'ont pas peur de ces casques bleus et c'est ça le gros problème.
Déjà dès le début, ces groupes armés, ils ont essayé déjà de voir si les casques bleus, ils ont la force, la puissance même de réagir très vite. Ils les ont attaqués dès qu'ils se sont rendus compte que les casques bleus même sont vulnérables.
Ousmane Diaye, il y a un autre problème qui a été soulevé tout au long de cette visite de 4 jours par Antonio Guterres en Centrafrique, c'est que les engagements financiers par les bailleurs de fonds pour aider ce pays à se redresser, pour permettre aux Centrafricains, la majorité d'entre eux, de se nourrir, les trois quarts qui dépendent d'ONG et de l'aide humanitaire, eh bien là aussi, une fois de plus, il a lancé à nouveau un appel à la solidarité, à la communauté internationale, mais un appel finalement qui risque... de rester et d'être morte.
En fait, il y a un problème de fond. On essaye d'augmenter la capacité des casques bleus, donc force de maintien de la paix, avec tout ce que ça suppose et pose comme problème de mandat, parce que c'est toujours le problème des casques bleus.
Et de contexte diplomatique international.
Offensif, ils ne peuvent pas attaquer. Pour attaquer, il faut qu'ils soient attaqués. C'est très compliqué. Deuxième chose, j'ai l'impression que la communauté internationale, y compris l'ONU, s'est désengagée sur le problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? Il faut une solution politique à la Centrafrique. Sans solution politique, la question humanitaire ne peut pas être réglée. La question sécuritaire ne peut pas être réglée. On fait comme si la question politique était réglée. Or, elle n'a pas été soldée. Les accords se multiplient. C'est des accords qui se passent hors cadre de l'ONU. Les derniers accords, c'était sans
préjudice. Alors, comment? Non, mais attendez, régler un problème politique avec des bandes armées qui ne sont motivées que par le pillage d'un pays.
Oui, mais à un moment donné, il faut définir un consensus politique minimal et donc un consensus de dialogue qui exclut les armes et tous ceux qui sont hors de ce processus qui exclut les armes, que la communauté internationale ait quand même le courage de les arrêter. Parce qu'un Nouredine Adam, est-ce qu'on négocie avec? Est-ce qu'on négocie avec des criminels de guerre? Tant que ces questions-là ne sont pas réglées, posées, cadrées, on dit on négocie avec ce groupe-là, cela, on négocie pas, c'est du sort de la justice internationale, on va pas avancer. Là, on fait un truc qui arrange tout le monde, qui manque de courage, qui manque de visibilité.
C'est vrai qu'on trouve que c'est insensé que le Guterres fasse appel à la bonne volonté des chefs de guerre.
Absolument.
C'est insensé.
Non, absolument, c'est insensé. Par contre, comment on force des chefs de guerre qui ont la main mise sur des territoires et depuis longtemps, parce qu'on va pas découvrir le cas centrafricain, malheureusement, on va pas tomber...
Par la force.
Par la force, mais qui fait voter le mandat? Quelle force va intervenir? C'est sûr que c'est pas les casques bleus, c'est pas leur rôle. Est-ce qu'on fait revenir
chapitre, est-ce que sur la base du Sangari, chapitre 7, on peut pas le faire?
Oui, certes, mais
on l'a fait au Mali.
On l'a fait au Mali. Mais qui va avoir la volonté? On a vu ce que ça a donné Sangaris.
L'ONU doit être logique. Sûr, on ne peut pas dénoncer un génocide qui arrive et dire que nous n'avons pas les moyens de l'empêcher. Oui. Donc l'ONU n'a plus vocation à exister.
Absolument.
S'il ne peut pas empêcher un génocide.
Moi, je pense que la vraie solution, c'est... En fait, il revient aux Centrafricains de gérer cette histoire.
Déjà, on voit bien qu'il n'y arrive pas.
Le souci, c'est que depuis 2013, l'armée centrafricaine est quasi inexistante, oui. Alors qu'on voit des soldats centrafricains qui perçoivent des salaires, on voit des soldats centrafricains en tenue se pavaner dans Bangui. Si on a déjà l'Union européenne qui a eu à former des soldats, il suffit de les mettre de les mettre en condition et de les envoyer sur le terrain parce que c'est eux qui connaissent cette situation.
De la solution,
et puis en plus,
oui.
La reconstruction de l'armée centrafricaine était une des priorités de la communauté internationale. Mm. Tout le monde l'a oublié en cours de route. Mm. Tout le monde.
Mm. Bah parce qu'il y avait plus urgent, simplement.
Oui.
Il y avait
Petit
plus
matin.
Urgent.
Je
il
ne
y
sais
a,
pas.
Bah, il y a 80% de la population et du territoire qui n'est pas géré. Il y a l'accès. Il faut bien comprendre quand même qu'on est dans un endroit où les enfants n'ont pas accès à tout ce qui est minimum vital. Je ne parle pas des adultes, mais les enfants, encore pire. 20% de la population souffre du diabète. Il n'y a pas un endroit, un hôpital qui soit sécurisé où ils peuvent récupérer du matériel, du soin. Les hôpitaux sont attaqués.
Et là, vous, Thérèse, a eu raison de parler de l'absence d'État.
Mais tout le monde est attaqué. Donc, comment faire les choses bien, à minima, quand la situation est aussi tendue, aussi complexe sur le terrain?
En fait, juste un dernier mot. La balle est dans le camp de qui?
C'est l'État centrafricain qui doit vraiment s'imposer.
Mais qui n'existe l'État pas.
Qui n'existe pas.
Si, si, il y a un moyen, parce que si on laisse le temps à la MINUSCA, par exemple, de décider de déplacer le problème dans le sud-ouest actuellement, c'était à Bombari. On devrait arrêter le chef de l'UPC. On l'a déplacé tout simplement à Bangassou pour aller foutre le trouble dans cette partie
Mais
du
tout
pays.
Le monde doute quand même de la capacité du pouvoir de Bangui à régler le problème, d'autant plus qu'il se dispute le pouvoir. Notamment entre le président de l'Assemblée nationale et le chef de l'État. Oui. Voilà, entre Karim Mekasoa, qui est sur le perchoir, et le chef de l'État, qui est sur le fauteuil présidentiel.
Ce n'est qu'une couche pour couvrir le vrai problème, le vrai fond.
Voilà, et l'on passe à notre deuxième sujet, le Kenya et cette élection présidentielle du 26 octobre. Un remake, comme on dit en bon français, de l'élection du 8 août dernier, retoqué par la Cour suprême pour irrégularité. Eh bien, le scrutin d'hier jeudi a été très tendu. Des morts et des zones entières du pays où l'on n'a pas voté. Ousmane Ndiaye, au lendemain de cette élection présidentielle kényane, est bien très tendue. Deux choses à pointer d'abord. Uhuru Kenyatta est censé être réélu, là, sans problème, au moment où les résultats seront proclamés. Et puis, son rival, Raila Odinga, l'opposant qui a boycotté le scrutin, lui, il court le risque de passer pour un dangereux diviseur. En fin de compte, puisqu'il avait obtenu gain de cause, l'élection du 8 août a été retoquée. Et puis à chaque fois, il avait des exigences et puis, in fine, il a dit non, j'y vais pas.
Kenyatta, comme Odinga, c'est une classe politique qui, depuis, disons, 20 ans, j'ai l'impression que pour arriver au pouvoir à chaque campagne électorale, ou bien pour gagner, il faut passer sur des cadavres de Kenyans, de leurs compatriotes. Il n'y a pas eu une élection au Kenya où ça ne s'est pas soldé par des morts. Le pic a été l'élection de la crise de 2007-2008, 2000 morts. Et puis en plus, ce qui est assez étonnant sur le cas du Kenya, c'est que c'est cette élite très étriquée, très fermée finalement, parce que c'est des dynasties des deux côtés. Les Ruto, c'est une dynastie. Kenyatta, c'est une dynastie. Plus parrainée par Moi, Odinga, c'est une dynastie. Mm-hmm. On a l'impression qu'il y a une classe politique qui tient en otage son peuple finalement, parce que quand ils disent que le Kenya est une démocratie. Mais pour faire les élections au Kenya, on entend très peu d'arguments, on entend très peu de discours politiques, de comment on construit une nation. Les élections kenyanes, ça a toujours été une sorte d'instrumentalisation de l'ethnicité. Le Kenya, c'est un pays qui, quand même, quoi qu'on puisse dire de Jomo Kenyatta, il avait réussi à construire une nation et à théoriser cette idée d'une nation commune. Mais ses successeurs, pour rester au pouvoir, ses héritiers, ils ont instrumentalisé l'ethnicité.
Ce qui a fait des morts. Alors, effectivement, aujourd'hui, on aura constaté Fatimata que lors de la présidentielle d'hier, donc boycottée par Odinga, son fief, sa région, l'ouest du pays, on n'a pas voté au moins dans 4 districts, des districts de la communauté Luo, la communauté d'Odinga. Oui. Donc, on s'achemine effectivement, quand bien même il n'y aura pas d'incident demain, on s'achemine tout de même vers une espèce de partition du Kenya, en tout cas de partition politique à l'issue de cette élection, qu'on le veuille ou pas.
Oui, c'est une vraie question finalement. C'est effectivement, Ousmane a bien fait de rappeler cet antagonisme. Cette espèce de Dallas, en fait, ça se joue Dallas à Nairobi, quoi. C'est les deux frères ennemis entre guillemets, parce que faut bien rappeler que les Kenyatta à l'origine, que ce soit les Kenyatta et les Odinga, parce que les deux familles étaient unies justement pour la prise de l'indépendance. Ils étaient contre les colons britanniques, etc. Il y avait déjà cette coalition dans la lutte. Et puis après.
Ils se
moment.
C'est transformé en rivalité.
En rivalité au moment de prendre les fruits du pouvoir. Ouais, évidemment, ouais. Ça c'est un peu classique quand même. Ouais. Et depuis très longtemps, on sait que n'empêche une élection
donc,
au Kenya.
Donc le Kenya est l'otage de ces deux familles.
Absolument, mais tout ce qui est sûr, c'est que les élections au Kenya, à la fin, c'est toujours un Kenyatta qui gagne hein, quand même. Hein. Donc Odinga n'a pas été président. Et là, toujours est-il.
Il y a eu l'Arabe Moy, il y a eu.
Oui, mais en tout cas, quand ils sont tous les deux, quand ils sont face à face, c'est toujours Kenyatta qui gagne. Ouais, donc, il y a un vrai problème là-dessous. Et avoir cette rivalité, et comme dit Ousmane, ne pas mettre le pays en otage systématiquement et que ce ne soit pas eux qui payent les couvre-feu.
Pacôme, un mot avant de passer la parole à Ousmane.
Oui, moi, je pense que déjà, Ousmane l'a dit, hein, le vrai problème, c'est de pas partir sur l'ethnicité et diviser les gens.
Or,
on y est, malheureusement.
Mais justement, c'est sur ça que les deux partent. Je trouve vraiment dommage que les gens ne discutent pas à base de. Enfin.
Mais là, on va faire endosser la responsabilité plutôt à Odinga qu'à Kenyatta, Ousmane.
Non, pas forcément.
Pas forcément. Kenyatta, oui. Quand même, alors, il peut tout
non, mais
dire, mais
c'est
il change
non, mais
les règles.
Puisque c'est Odinga qui a appelé au boycott, oui, mais... et puis qui avait appelé d'abord ses partisans à manifester avant de leur dire de rester chez eux.
Oui, mais avant ça, quand même, Kenyatta change les règles du jeu.
Absolument.
Comment on peut aller dans un match où à la mi-temps, on change encore une fois les règles du
mais
jeu.
Mais oui.
Ça, c'est créer les conditions du désordre.
Oui.
C'est, moi, je pense que Kenyatta.
Non, mais il n'a pas changé les règles du jeu.
Si, on a voté une loi au Parlement.
Oui.
Dans l'entre-deux tour.
Oui,
non, mais je veux juste rappeler que la déclaration de Kenyatta est intéressante parce qu'il dit c'est la responsabilité du président élu d'agir contre les divisions du pays, de le soigner, de l'unifier. Si les Kenyans m'élisent, ce sera ma responsabilité et je l'assumerai. Moi, j'adore cette déclaration parce qu'il parle comme s'il n'était pas élu, déjà.
Oui,
c'est-à-dire que c'est un président sortant.
Il joue le jeu de la légalité.
C'est quand même un président sortant qui parle, qui s'exprime. Là, on a l'impression que c'est un adversaire qui n'a jamais été élu, qu'il endosse la responsabilité en disant « Moi, je prendrai la charge. »
En président sortant responsable, il s'exprime
mais
comme tel.
Non,
président sortant responsable ne menace pas ses juges.
D'accord. Oui,
absolument.
On n'a jamais
absolument.
Vu ça. Dans aucun pays du monde, on ne menace pas les juges en disant « Je suis élu, je vais leur régler leur compte. »
Oui, absolument. En sachant qu'ils sont élus pour 10 ans, de toute façon.
Donc, on s'achemine, si je vous comprends bien. On n'est pas sorti de la crise, alors, Pacôme.
La crise ne vient que de commencer, si on voit bien. Parce que si déjà, on est déjà à 3 morts, mais très vite, on se rendra compte que la tension monte chaque minute, chaque heure. Si les gens se mettent...
Qu'est-ce qui pourrait arrêter ça? La Cour pénale internationale
peut-être.
On l'a déjà brandi
Il y est déjà passé Uhuru Kenyatta.
Ouais. Il était sorti vainqueur.
Très fin. Il n'est pas sorti vainqueur. Bon, c'est ça, c'est son interprétation. Hein. La Cour a décidé que les témoins se sont rétractés. Personne n'osait plus témoigner parce qu'il est président de la République. Ouais. C'est compliqué de témoigner.
Et un de ses ex-rivaux est devenu son vice-président.
En plus,
voilà, il a fait un deal avec Ruto. Voilà, donc la Cour ne l'a pas blanchi. La Cour a dit j'ai pas suffisamment de preuves ni d'éléments pour continuer l'enquête. Donc il le présente comme une victoire, mais ce n'est point une victoire.
Oui, absolument.
Fatima, vous êtes pessimiste sur la suite.
Alors non, je suis
pas.
Je suis pas pessimiste. Moi, j'aime bien le rôle du juge, de la Cour suprême, qui est assez intéressant, hein, David Maraga. Alors. Mettons un bémol quand même, hein, le gars qui se présente en signe blanc, c'est quand même quelqu'un qui a quelques casseroles, adventiste du septième jour, etc., etc. Néanmoins, c'est lui qui a pris une décision courageuse dans le pays d'annuler, d'invalider la première élection, donc est obligé à cette répétition d'élection. Ouais. N'empêche que
c'est quand même un tournant.
C'est un tournant pour le pays et ça mérite d'être souligné.
Et puis il y a un problème de fond, le Kenyan doit enfin nous pousser en Afrique à s'interroger sur ces régimes post-coloniaux qui n'ont été en fait que des transmissions de pouvoir par rapport aux familles qui tenaient le pouvoir. Les Kenyattas, c'était la famille régnante.
On vous dira, Ousmane, que c'était pas propre à l'Afrique. Oui, mais on vous dira que c'était pas propre à l'Afrique.
Bien sûr, mais à l'Afrique, ça
crée, des monarchies,
ça donne des morts en Afrique.
Oui, malheureusement.
Et ailleurs, non.
Ouais. Ailleurs, non. Ouais. Vous avez raison. C'est la grande différence, c'est la grosse différence. C'est la fin de cette émission. Merci Fatima Tawansanya, Ousmane Diaye, et à vous, Pacôme Bangadji, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.